Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Jean-Baptiste. J'ai écrit dans le Ravi, j'ai signé des articles concernant la stèle OAS de Marignane. J'ai interviewé pour ça Jean-François Gavoury, qui est le fils de Roger Gavoury, un commissaire central qui a été assassiné à Alger par l'OAS. Et moi, j'ai une question, Madame Fructus. Alors, je voulais que ce soit un peu rigolo au début, j'avais préparé des blagues, mais là, on rentre directement dans le vif du sujet. Vous avez dit qu'en 98, vous vous étiez opposé à toute fusion. Or, quelqu'un était complètement favorable à cette fusion, a défendu cette fusion corps et âme. Il s'appelle M. Christian Estrosi, il est aujourd'hui le maire de Nice. Alors, est-ce que c'est grâce à M. Léotard que cette fusion n'a pas eu lieu? Quoi qu'il en soit, il était un des fers de lance de cette fusion et il la défendait. Aujourd'hui, je crois que vous avez tenu un discours qui relève du mensonge. Tout simplement, et je viens à cette explication, aujourd'hui, Hubert Falco est en train de réhabiliter les fusillés d'Isly, une manifestation pro-OAS. Il a été, cette manifestation est un signe fort envers les gens qui se revendiquent d'une droite extrême, qui font l'apologie d'un mouvement terroriste. Hubert Falco, actuellement, est la pire chose qui puisse arriver aux gens qui souhaitent la pacification des mémoires et la réconciliation. Et donc, moi, ma question, puisqu'on a publié pratiquement intégralement la lettre qu'a adressée Maryse Joissin à Jean-François Gavoury, qui fait elle-même l'apologie de l'OAS, c'est pourquoi dites-vous que votre camp est uni, puisque je sais pertinemment que M. Rudy Sall ou Geneviève Lévy, par exemple, ont des positions qui sont antagonistes à l'OAS, alors que dans votre camp, je pense par exemple à un conseiller municipal dans le 06 à Cannes-sur-Mer, qui est un tueur de l'OAS, qui a du sang sur les mains. Pourquoi dites-vous que vous êtes uni, alors que sur ces questions précises, vous ne l'êtes assurément pas? Voilà.
Alors, pour vous répondre, ouais, j'aime bien vous avoir. Je vous dis qu'on est unis parce qu'on est unis sur un programme, d'accord? Aujourd'hui, on est sur une élection régionale. Comme je m'évertue à essayer de l'expliquer depuis le début de cette soirée, nous avons construit un programme qui peut répondre aux préoccupations qui correspondent aux compétences et aux pouvoirs de la région et à l'ambition que nous avons sur cette région. Pour ce qui me concerne, je le répète, je suis secrétaire générale du Parti radical, la numéro 3 du Parti radical au niveau national. J'ai des valeurs et je les impose quand il se doit. Les questions que vous évoquez ne se posent pas aujourd'hui dans les enjeux qui sont... Mais de toute façon, il est très clair que ce n'est pas un programme régional. Hein. Alors... Mais ce n'est pas un programme régional. Vous prenez la liste de nos propositions. Je vous fais grâce de. Enfin, voyez, il faut pas tomber dans l'excès. Voilà. Si je prends la peine de vous dire que je représente le Parti radical, c'est qu'à un moment donné, quand la question se posera, je dirai ce que j'ai à dire. Voilà. Mais non, mais très clairement, je le dirai. Et si je vous dis que je le dirai, ça vous laisse entendre que je suis pas forcément d'accord. Hein? Mais aujourd'hui, il faut savoir de quoi on parle. Et c'est en mêlant toutes ces problématiques qu'on trouble le débat. On trouble vraiment le débat sur les enjeux. Moi, je comprends. Je comprends vos préoccupations. Mais regardez, vos amis là, qui vous reprochent pas lesquels sont le plus proches de vos sensibilités, mais ils sont d'accord sur rien des enjeux régionaux. Et ça vous préoccupe pas. Ça ne vous préoccupe pas.
Juste une question pour prolonger. De fait, l'UMP a choisi, ça a été dit publiquement dans le débat au moment de l'investiture, ça a été un peu long d'ailleurs, là il y a eu cafouillage, on peut dire, en tout cas on a senti la pluralité des gens qui sont sur vos listes. Thierry Mariani a été choisi, il y a eu une concurrence en disant, parce que c'était un des candidats les plus marqués à droite au sein de l'UMP, et c'était posé comme étant un atout pour reconquérir un électorat s'étant détourné de vous pour aller vers l'extrême droite. Donc, c'est bien. Là, il y a eu un choix tactique dans cette campagne-là d'ancrer votre campagne très à droite. Est-ce que vous démentez ça?
Écoutez, oui, parce que on n'a pas vécu les choses de la même façon. Il y a eu multiplicité de candidatures. Et ça, c'est plutôt bien. Ça montre qu'il y avait de l'intérêt, qu'il y avait des candidats potentiels pour pouvoir représenter nos listes. Il a fallu faire des choix. Il y avait deux candidats. Bon, Hubert Falco était celui qui était positionné au départ. Hein, donc, je veux dire, les choix, on les a faits dans les deux derniers mois. Parce qu'au départ, c'était Hubert Falco qui devait y aller. Tout le monde était entendu là-dessus. Sauf qu'il a préféré, faire un choix sur sa ville, parce que son parcours politique, c'est d'abord sa ville. Et il a tenu à mener la tête de liste de son département. Donc, partant de là, il a fallu choisir entre trois candidats. Il y avait deux candidats des Bouches-du-Rhône. Bernard de Flessel, qui est le tête de liste de...
On peut essayer de faire des réponses courtes, parce qu'on a la soirée... Si on veut avoir un échange sale.
Oui, alors ce que je vous dise oui ou non, c'est ça la réponse. Mais parce que je prends la peine de venir débattre avec vous.
Vous ne repartez pas dans tout le cycle de la nomination.
Mais je reprends le débat parce que vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Donc il faut bien que je vous explique le contexte. Vous avez une perception des choses qui n'est pas la réalité de ce qui s'est passé. Donc Thierry Mariani est un député d'un département qui compte, le département du Vaucluse. Très bien. Thierry Mariani, il est dynamique, il est jeune, il a eu l'adhésion et il a été choisi parce qu'on a considéré qu'à un moment donné, c'était bien que ce soit lui qui mène nos couleurs. Il n'y a pas d'autres préoccupations que celle-là. Maintenant que vous le ressentiez comme ça, c'est une chose. Mais la réalité, ce n'est pas du tout par rapport à un profil quelconque. C'est simplement une dynamique, une envie de porter un projet régional avec nous. Et voilà. Voilà, il ne faut pas faire compliqué hein, quand c'est simple.
Allez, on prend une autre question.
Jacques Sonsin, je suis journaliste. Moi, ce qui me saute aux yeux dans ce débat, madame, c'est que vous ne voulez pas gagner la région. Pour moi, c'est clair et vous l'avez très bien expliqué. Comme vous avez dit, vous êtes une liste qui ne fera pas de jonction, de fusion entre les deux tours. Vous êtes crédité, vous le savez, au maximum de 30%, vous allez à la perte. Et si M. Falco n'a pas voulu y aller, c'est à peu près aussi pour cette raison. Et je vais quand même donner quelques détails qui vont aller peut-être un peu dans le sens de ce qui précédait. Juste avant les élections, vous lancez un grand débat sur l'identité nationale. Il fallait être vraiment simple d'esprit pour penser que ce débat allait renforcer le côté républicain de notre société. Le but de ce débat était bien de faire une stigmatisation de diverses populations dans la société et de faire monter le Front National, ce que M. Le Pen, qui a été très bien décrit précédemment, dont le parti a très bien été décrit précédemment, a très bien compris et effectivement a pu se répandre dans ce truc-là. Vous dites que Le Pen, que le Front National favorise la gauche. Mais les idées portées par le Front National, vous les récupérez et vous les mettez en musique. C'est quand même étonnant. Vous avez des possibilités dans la législation. Le racisme en France n'est pas une opinion, madame. Quand vous dites on peut débattre avec M. Le Pen, avec M. Bompard, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit qui est puni par la loi, par diverses lois qui n'ont pas été écrites d'ailleurs par vos représentants. Il y a la loi Guesso, il y a un certain nombre de lois qui ont été faites par des gens justement de gauche, à part la première loi, la loi Pleven, des années 70. Donc nous trouvons aujourd'hui dans cette situation où vous avez renforcé, vous avez mis en œuvre la force d'un Front National et vous savez que vous allez à la perte et je vais terminer là-dessus, parce que les régions, vous vous en foutez. En fait, comme ça a été dit tout à l'heure, dans toute l'Europe, les régions sont des petits États avec un grand pouvoir et de grands budgets. En France, on a lancé ce mouvement, mais on l'a maintenu relativement limité. Les régions ont des compétences limitées. Elles avaient la compétence générale, mais ça ne va pas très loin. Elles ont des petits budgets. Au lieu de développer ça, on est en train de mettre en place un système qui va tuer les régions, recentraliser le débat, recentraliser les réactions. Vous êtes là-dessus et vous essayez de tuer le débat et de tuer les régions. Et c'est pour ça que vous avez cette position aujourd'hui. Dans le débat aujourd'hui, le problème, ce n'est pas que la gauche soit divisée, c'est que vous allez à la perte et vous y allez consciemment pour tuer les régions.
Alors, si je peux me permettre, si on est là, effectivement, on peut s'amuser à taper sur Arlette, c'est la seule représentante de l'UMP. Jacques, non, mais on peut s'amuser à taper sur la droite, ça mange pas de pain, voilà. Tu sais, Jacques, d'accord. Néanmoins, la question que pose Arlette, Jacques, jusqu'au bout, elle a raison de dire qu'à un moment donné, les droites ont réussi, pour des raisons électorales, à se rassembler. On sait très bien, et on ne va pas se raconter du flanc entre nous, que les gauches et les centres ne sont pas capables aujourd'hui de pouvoir se rassembler. D'accord ? Aujourd'hui, bien évidemment, Nicolas Sarkozy, je l'ai dit tout à l'heure, a capitalisé, ce n'est pas l'expression qu'on dit, mais a su à rassembler l'ensemble des droites, parce que a caporalisé les droites. On sait très bien qu'Arlette, qui vient du Parti radical, n'a strictement rien à voir, excuse-moi Arlette, avec les prises de position de Christian Estrosi, qui est limite sur un version facho. On le sait très bien, on ne va pas se raconter des salades entre nous. On sait très bien que Jean-Claude Gaudin ne peut pas voir en photo ni Renaud Muselier ni Guy Tessier, parce qu'ils sont sur des positions politiques et de projection de la ville de Marseille complètement différentes. Si on ne peut pas, à un moment donné... Mais bien évidemment que la droite... Mais on ne va pas se raconter ça entre nous, évidemment que les droites... Mais simplement que la question... Je te renvoie, Jacques, la question, savoir effectivement pourquoi, à un moment donné, la réflexion des gauches, on n'est pas capable d'avoir une réflexion sur les valeurs de qu'est-ce que compose la gauche, le centre, quelles sont les valeurs qui nous rassemblent, quelles sont les valeurs qui nous divisent. C'est la question, c'est comme ça que je la posais. Comment on est capable, à un moment donné, de poser et sortir de ce putain de clivage de gauche et de droite qui est aujourd'hui, à mon avis, complètement archaïque, dogmatique, et qui, aujourd'hui, laisse un espace énorme à la réélection de Nicolas Sarkozy en 2012. C'est là l'interrogation comme je veux la poser. C'est pas autre part, tu vois.
Je voudrais dire un petit mot. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les pieds noirs, les rapatriés. Moi, j'en suis un. Je ne voudrais quand même pas qu'on confonde un petit peu l'OAS et les rapatriés. C'est deux choses différentes. Hein. Moi, j'étais au Parti socialiste, je suis rapatrié, j'ai été gaulliste à mon temps. Voilà, il ne faut pas stigmatiser le vote pieds noirs en disant c'est un vote Le Pen ou un vote OAS. Hein. Ça n'a rien à voir. Première des choses. Deuxième des choses, je pense, je ne veux pas prendre la parole à Arlette, mais ce n'est pas grave. Je pense que là, elle va, pendant 4 ans, ils seront dans l'opposition. Mais avec la réforme du scrutin la prochaine fois, Arlette, tu seras présidente de la région, forcément, puisque le scrutin est fait pour ça. Donc je pense que c'est ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter. Et en fait, sur ce que dit Christophe Madrol, moi j'arrive toujours, enfin je suis peut-être né en politique, hein, c'est possible, c'est pour ça d'ailleurs que je n'arrive à rien, mais je ne comprends pas aujourd'hui où est la différence entre la droite et la gauche. Je le redis tout à l'heure, j'ai dit violemment, je dis calmement maintenant, puisque je vois Sarkozy qui fait une politique de droite avec tous les gens de gauche, d'ailleurs il en a rajouté une cuillère cette fois-ci, alors le MoDem, qu'est-ce qu'il va faire là au milieu ? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ce que fait Sarkozy aujourd'hui ? Vous allez faire quoi ? Vous allez faire une moyenne ? Le MoDem, ça va être une moyenne entre la droite et la gauche. C'est-à-dire, en période de crise, une moyenne, c'est à mon avis ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, c'est votre question. Choix.
Attendez, je peux quand même répondre, monsieur qui m'a interpellé directement et d'une façon violente et agressive. Ah oui, non, mais attendez, il a pris le temps, lui. Hein. Bon. Alors, monsieur, on va gagner cette région. Voilà. On va la gagner, ne vous déplaise. Ne vous déplaise. Voilà. Et ça, mais ça, j'en suis intimement convaincue. Parce que vous ne croyez pas que je vais au combat en pensant que je vais perdre. Si j'y vais, c'est parce que j'ai des convictions et que je veux me battre. Alors, vous me lancez des stéréotypes de tous les discours que j'ai entendus longtemps. Hein, et qui sont, je ne peux pas comprendre que vous n'ayez pas une ouverture d'esprit sur certaines problématiques. Monsieur, vous me dites l'identité nationale. Vous avez lancé le débat pour préparer les régionales et faire monter le front. Mais attendez, vous êtes tombé sur la tête. Je vais vous dire, n'importe quel grand débat. De toute façon, quel qu'il soit, vous aurez considéré que ce n'était pas le moment opportun de le faire parce qu'il y avait une échéance électorale. On l'aurait fait un peu avant 2011, c'était les cantonales. On l'aurait fait un peu avant 2012, c'était les présidentielles. Ça avait toujours. Mais les questions, on doit se les poser. Et moi, dans ma permanence au Parti radical, dans le premier arrondissement de Marseille, qui est le siège de la Fédération départementale, j'ai fait un travail avec mes militants sur la thématique de la cohésion républicaine. Parce que la réalité, c'est ça. L'identité nationale, c'est qu'on remet en cause quoi ? Et ça nous remet sur nos fondamentaux. Quelle cohésion républicaine on veut ? Et pourquoi on a envie de vivre ensemble ? C'est ça. Et ça vous gêne qu'on en parle ? Eh bien, moi, pas.
On prend une question.
Bravo. Bonjour. Je m'appelle Patrick. Je m'adresse à M. Villeneuve. Vous êtes pour le projet ITER ? Vous êtes pour le nucléaire ?
Tant que c'est la recherche.
planification industrielle, ce sera une autre chose. Alors, on discutera. Nous avons 60 ans devant nous pour en discuter.
D'accord.
Mais tant qu'il s'agit de la recherche, je suis chercheur et je suis pour la recherche. Maintenant, si les gens sont contre la recherche, qu'ils le disent. Hein. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. On peut être contre la recherche. Ouais, d'ailleurs, des gens l'ont été, il y a très longtemps, contre la recherche. À l'époque de Galilée, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre. Hein. Donc, moi, je suis pas...
On manipule des matières dangereuses quand même. Vous savez qu'on manipule des matières dangereuses.
Le lithium et l'hydrogène 2, c'est dangereux d'après vous ?
Ou le tritium.
Le tritium.
Eh oui.
C'est extrêmement dangereux.
Oui, pareil.
Oui, et combien de kilos ça fait ? Je n'ai pas bien entendu.
Vous voulez rentrer dans les chiffres ?
Oui. Qu'est-ce qui est dangereux ? Ça va être la paroi qui va être ionisée. C'est ça qui est dangereux.
Donc tout va bien.
Oui, oui, la paroi. Bah, écoutez, si on n'arrive pas à gérer une paroi... Arrêtons le monde, c'est pas la
vous
peine.
Êtes pour,
on arrive
c'est
à gérer, on non, arrive
je,
à gérer un
clémenceau,
on
a
un
clémenceau
ici quand on débat, et on n'arrivera pas à gérer une paroi de lithium.
Merci.
Après notre question.
Pour moi, tant que c'est un projet de recherche, je suis pour, parce que je suis pour la recherche. Je trouve que ça nous fera des avancées dans le domaine de la fusion. Quand on arrivera au stade de l'industriel, là, peut-être que je voterai contre, et probablement que je voterai contre. Mais tant que c'est un projet de recherche limité à quelques tonnes, à cas d'arrache, je ne vois pas l'intérêt de supprimer un laboratoire de recherche aujourd'hui.
Vous reprendrez la discussion après, si vous avez envie.
Marie, je voulais demander... Madame Fructus a dit que les propos de ses adversaires étaient de nature à inquiéter le simple citoyen. Bon, moi, ça ne m'a pas du tout inquiété. Alors, je voulais lui poser la question. Jusqu'à maintenant, depuis que la droite est au pouvoir, qui nous a parlé sans arrêt, ça revient, de l'insécurité, de ci, de là, etc. Bon, qui a fait cette campagne scandaleuse où on a dépensé des milliards pour cette grippe, où on aurait dit que tout le monde allait mourir, hein, bon, c'était quand même de nature à nous inquiéter, excusez-moi. Hein, parce que ça n'a pas arrêté. Passer un moment, trois fois par jour, on nous en parlait, les morts, les machins, les trucs. Hein. Bon, et on sait très bien quand les gens sont en état de choc ou en état de peur, ils sont manipulables. Qui c'est qui, chaque fois, agite encore le drapeau, encore de l'insécurité, mais à ce moment-là, avec le national, avec l'identité nationale. Voilà, alors je suis désolée, mais ce n'est pas la gauche, là. Hein.
Madame. Elle s'en va ? Elle n'attend pas la réponse ?
Ah bon, d'accord. Elle reprend sa place.
Madame, c'est bien que vous posiez cette question comme ça. Parce que ça me permet de vous dire que, on est des femmes et on est des mères, je suppose. Moi, vous savez, le problème de la grippe... Non, mais attendez. Voilà, mais je m'adresse à la personne qui m'a posé une question. Voilà, s'il vous plaît. Donc, madame, moi, le problème de la grippe, je pense que c'était un problème majeur qui a interpellé tout le monde. Et vous savez combien d'erreurs ont été commises en matière de santé. Je ne vais pas remonter à la politique, à l'époque de Fabius. Hein, voilà. Je veux dire, chacun a fait, à des moments donnés, des choix d'intervention dans un domaine majeur qui est celui de la santé. La santé, c'est le domaine de l'État. Hein, c'est la compétence de l'État. Et est-ce qu'on fait trop de prévention ? Est-ce qu'on en fait pas assez ? Est-ce qu'on prend de trop grandes mesures ? Est-ce qu'on... On ne sait pas. On se réfère à des experts, à des gens. On n'est nous-mêmes pas compétents pour évaluer si oui ou non il faut intervenir. Bon, alors, ça a peut-être été excessif. Les choix ont peut-être pas été ceux que vous estimiez bons parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Moi, je ne sais pas si on n'en parlera pas dans un mois ou deux. J'en sais strictement rien. Voilà. Bon, mais vous savez, dans les évaluations des politiques, il faut toujours faire attention. Il faut jamais être disproportionné dans la façon dont on les reçoit. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous dire.
Il est tard. On prend deux, trois questions.
Sur la sécurité, je ne sais pas, mais c'est. Alors, mais est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas des problèmes quand même de sécurité au quotidien ? Enfin, juste au quotidien, il n'y a pas un flic qui vient de se faire déglinguer dans il y a deux jours chez nous, il n'y a pas des difficultés dans nos quartiers. Non, ça vous préoccupe pas. Si Monsieur Mennucci avait été là, ce qui n'est pas le cas, et je constate avec vous que le PS, une fois de plus, se défile dans ces élections, si Monsieur Mennucci, qui est maire de secteur, avait été là, socialiste, il vous aurait dit, madame, qu'il demande à corps et à cri une augmentation de la police municipale parce que les rues de la ville sont insécures. Alors ne me dites pas que le problème de la sécurité n'est pas une préoccupation de nos citoyens.
Christophe Manrol sur le sujet.
Oui.
Et une question.
Sur le problème de la sécurité, madame, bien évidemment, c'est une préoccupation et ça doit être une préoccupation. D'accord ? Simplement que les réponses que amène... Attendez, je réponds. Simplement qu'effectivement, ce n'est pas une compétence du Conseil régional. Mais en la matière, on peut très bien imaginer la proposition que l'on fait, ce n'est pas de mettre des portiques ou de former les agents de sécurité, d'accord ? Puisque j'ai entendu au Parti socialiste dire qu'il fallait que la région, dans le cadre du PRF, forme des policiers pour les lycées. C'est simplement de dire qu'à la région, de faire pression sur l'éducation nationale en matière de pions, en matière d'infirmières, en matière de surveillants. Bien évidemment, dès qu'on enlève des adultes dans les lycées, bien évidemment, je suis éducateur spécialisé, il y a la violence qui rentre. Néanmoins, il ne faut pas non plus se cacher derrière notre voile de bons penseurs. La question sur la sécurité telle qu'il est posée, j'aimerais à un moment donné que la gauche socialiste, les socialistes qui sont de gauche pour mon ami Pierre, puissent avoir un discours. Parce que quand j'entends le maire du premier secteur de Marseille dire, homme de gauche, respectable, socialiste, dire qu'il veut effectivement dire qu'il faut plus de police municipale sans revendiquer au niveau de la nation, de l'État chargé de la protection, qu'on remette la police de proximité, qu'on arrête d'envoyer des CRS à Marseille qui ne sont pas formés à la prévention mais qui sont formés à la répression. Et qu'à un moment donné, ça soit un maire de secteur de gauche, socialiste, qui revendique effectivement plus de police municipale dans son secteur sans aborder le volet prévention de la délinquance, animation des centres sociaux et tous sur lesquels, sur les valeurs sur lesquelles on peut... Moi, ça me fait mal au cœur. Donc, si cette gauche-là, d'accord, avec lesquelles tu comptes t'allier, eh bien, effectivement, moi, ça m'interroge, là, encore une fois, et je ramène le problème sur les valeurs, à qu'est-ce qu'on définit sur la gauche et est-ce qu'il faut avoir une étiquette socialiste pour dire être de gauche ?
Une réponse ?
Donc moi j'avais 4 petits points à éclaircir, mais rassurez-vous, ce sera court parce que dans mon esprit c'est très clair. Donc je voudrais commencer par ITER. On a eu de cesse de nous dire la région est étanche, il ne faut pas développer des problématiques nationales, etc. Et on nous pose une problématique internationale. Alors excusez-moi, là je n'y comprends plus rien. C'est peut-être parce que je suis blonde, mais apparemment ça doit pas être ça. Donc une problématique internationale qui ne touche pas donc directement la région, ça a été dit pratiquement par tous, et qui devrait entrer donc dans une campagne régionale là où on nous interdit d'ouvrir les yeux sur la France et où on veut nous mettre des œillères hors région PACA, ce qui est quand même assez fou, mais bon, bref, passons. Ensuite, pour la LGV. La LGV, alors je crois que le seul point de ralliement de tous nos candidats ce soir, ça a été que le budget de la région est faible, très faible, trop faible. Et vous voudriez investir des milliards d'euros. Excusez-moi, mais quand on dit que ça n'est pas une priorité, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, Monsieur Barle, au hasard. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que, excusez-moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne fais pas Nice-Paris tous les jours et un quart d'heure, pour moi, ça ne vaut pas plusieurs milliards d'euros. Par contre, je fais peut-être Toulon-Marseille tous les jours en TER. Et à ce moment-là, on est bien content quand on n'attend pas une heure et demie pour en avoir un. Donc, ce serait vraiment bien de resserrer le maillage au lieu de faire gagner un quart d'heure. Parce qu'excusez-moi, un quart d'heure, finalement, c'est pas grand-chose. Bon, peut-être pour un chef d'entreprise multimilliardaire, c'est différent, mais ça n'est pas mon cas. Concernant l'AEI, alors je comprends pas trop. Alors, monsieur, vous êtes scientifique, donc je vais vous parler en des termes relativement scientifiques. J'ai l'impression qu'il y a une certaine schizophrénie à l'AEI, puisqu'à la fois on a de cesse de critiquer Europe Écologie, mais en même temps on cherche à capter son électorat. Alors, on est écologiste, mais le nucléaire, c'est pas si mal. On est indépendant, mais on veut s'allier, mais pas avec la gauche. Qu'est-ce qui reste ? Donc, tout ça, ce sont des choses qui restent en suspens pour moi. Et dernière chose, les contre-pouvoirs. Alors, on nous a dit, Madame Fructus, qui par ailleurs m'est très sympathique, je suis désolée de vous tacler ainsi, mais les contre-pouvoirs, pour moi, ils sont nécessaires et ce ne sont pas des freins à la politique nationale. Justement, nous parlons de régional, comme ça a été rappelé. Et s'il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est un État totalitaire. Alors, excusez le pléonasme, mais moi, j'ai l'impression qu'on cherche à recréer un État centralisé dans les institutions décentralisées, justement. Donc, c'est quand même une aberration. De recréer un jacobinisme régional. Alors, excusez-moi, c'est un néologisme, mais c'est bien ce qui est en train de se faire. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça n'était pas une question et c'est assumé. Mais voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce...
Alors, on va laisser répondre Michel Villeneuve pour commencer.
Dans tout ça, il y a deux questions qui me concernent, puisque j'ai entendu parler à AEI. Je ne savais plus que c'était nous, d'ailleurs, parce qu'on s'appelle l'Alliance, nous, on ne s'appelle pas l'AEI. Hein. Mais bon, je suis d'accord pour la LGV, je suis d'accord pour beaucoup de choses. Un, le nucléaire, oh, je suis contre. ITER n'est pas un programme nucléaire. Il n'y a pas le mot nucléaire dedans. Je m'excuse. Non. Non, mais attendez. Ne comparons pas la filière fission qui est une chose, hein, sur lequel il y a 150 tonnes d'uranium par centrale, 1300 mégawatts, etc., et dont on utilise une petite partie. Comme l'a dit d'ailleurs l'ancien directeur de la COGEMA, à l'époque, ça s'appelait COGEMA, Pareva, il a dit la filière nucléaire mourra par constipation. Ben, donc voilà, c'est très clair, on est contre. Voilà. Par contre, ITER, c'est un projet de recherche, et tant que ça reste un projet de recherche, moi, je suis pour la recherche. Voilà. C'est comme ça, ça fait partie des gens qui ne sont pas grantistes. Et qui, voilà. Deuxième chose, vous nous dites, vous courez après les électeurs d'Europe Écologie. Ah, on ne court pas du tout après les électeurs. Non, attendez, nous avons fait des élections européennes, dans un anonymat le plus complet. Aucune télé, d'ailleurs, M. Lalanne, qui menait la liste ici, il a été interdit de radio, j'étais à côté de lui quand il a... vous avez de la chance, parce que moi j'étais à côté de lui quand il y avait un directeur de radio qui disait « J'ai reçu des ordres de l'Élysée, tu ne peux pas passer à la radio ». Ah ben, et peut-être l'Élysée a dû rater quelques radios locales. Hein. Bon, alors ceci dit, dans l'anonymat le plus complet, nous avons fait 4%, et je peux vous garantir que les gens qui ont voté... les gens qui ont voté 4%, je pense que c'est pas par hasard, peut-être vous toutes seules, mais je pense pas que ces 4%, c'est par hasard qu'ils ont voté pour nous. Hein. Allez, ça, j'y crois pas du tout. Hein. Je pense que s'ils ont trouvé notre case dans la 18e case,
on a dépassé le temps qui nous était imparti.
Part, ils avaient voté pour nous.
Alors, je voudrais juste un tout petit mot sur ITER, ensuite la gauche et la droite, parce que ça me concerne quand même, ça nous concerne très directement. Sur ITER, la question, ce n'est pas que c'est un projet de recherche. Il y a des choix sur les recherches. On peut, cet argent-là, on aurait dû le mettre sur les recherches sur les énergies non renouvelables. Voilà, c'est tout. Mais oui, bon, d'accord. Donc, il y a un choix. Attendez. Donc, se réfugier derrière de dire « je ne suis pas contre la recherche », ça, d'accord, mais ce n'est pas un argument. On débat politique. La politique, c'est les choix. Et ce choix-là est mauvais. Voilà, vous ne voulez pas le reconnaître, mais c'est tout. C'est comme ça. Bon. Alors, ensuite, sur la gauche et la droite. Vous savez, en philosophie, il existe un vieux courant qu'on appelle nominalisme. Qui croit qu'une fois qu'on a nommé les choses, elles existent. Par exemple, qui dit « ça, c'est de gauche, et donc c'est de gauche ». Voilà, ça, c'est ce que critique Christophe. Il a raison de critiquer ça. En disant, moi, je ne vois plus très bien où est la gauche et la droite quand on parle de ces politiques de sécurité. Il a entièrement raison, là. Mais passer de là à l'idée qu'il n'y a plus de gauche et de droite et qu'il ne faut plus qu'il y ait de gauche et de droite, ça, c'est la voie ouverte à la barbarie. Oui, mais moi, je te le dis. C'est-à-dire, nous, on se bat pour que la gauche redevienne la gauche. Non pas que je ne partage pas les idées que tu dis, parce qu'on a bien vu comment la gauche a évolué depuis 25 ans. Pourquoi c'est la voie ouverte à la barbarie? Parce que quand il y a la gauche et la droite, c'est des valeurs qui s'opposent démocratiquement, qui s'opposent dans la lutte des classes, qui s'opposent avec le droit de grève, qui s'opposent avec des manifestations, et qui offrent à la société de grandes perspectives. Les uns qui se battent pour le sommet et pour les profiteurs, et les autres qui se battent pour ceux d'en bas. Bon, si ça n'existe plus, la voie est obligatoirement ouverte à la déchirure généralisée de la société, comme on voit là. Donc l'idée de dire, cette idée, il faut dépasser l'histoire de la gauche et de la droite, c'est pas parce qu'elle a eu été dépassée par 25 ans de politique successive au gouvernement qu'on fait la même politique. Ça, c'est absolument certain qu'il faut dire maintenant qu'il ne faut pas que ça existe. Il faut se battre pour que ça existe sur les valeurs fondamentales. Ce dont on a besoin, c'est d'une vraie gauche. Voilà, c'est exactement d'ailleurs ce que mon camarade a dit tout à l'heure. Il a très bien écrit la gauche qu'il faudrait, la gauche de combat dont nous avons besoin. Le problème, c'est de savoir si le Parti socialiste y correspond. Ça, c'est évidemment une autre question.
On conclut.
Oui. C'est super intéressant, faut rebondir sur les familles. Non, attends, Christophe, je termine, si tu permets, qu'une blonde parle à une blonde. Voilà. Merci d'avoir eu un petit mot gentil à mon égard. Vos questions sont très pertinentes. Sur ITER, l'engagement de la région, c'est tout à fait cohérent avec les compétences de la région. L'engagement de la région, il est sur la réalisation du lycée, hein, du lycée international. C'est une compétence régionale. La région a aussi en charge l'aménagement du territoire, la réflexion sur la cohérence territoriale. C'est toute une zone de notre territoire qui est impactée par ce projet. D'ailleurs, sur ce point, les écologistes freinent un petit peu à la mise en place d'une gouvernance, qui tarde à venir, malheureusement, puisqu'un GIP doit être mis en place, en attendant de voir si on va plus loin, si on fait un OIN, mais bon. Et je sais que c'est de votre côté que ça bloque. Conclure. Alors, premier point, ITER et les engagements de la région, c'est sur les compétences de la région. Deuxièmement, pour les contre-pouvoirs, il est hors de question de faire du jacobinisme régional. Simplement, ce que je veux dire, c'est que on peut, si une région est gouvernée, ce qui est le cas, il y en a 20 en France, par une formation politique qui s'est battue sur un programme. On peut très bien mettre en place ce programme et avoir sa philosophie d'action, parce que c'est normal qu'on ait une philosophie d'action publique. Sauf que quand l'État met en œuvre sur le territoire des outils importants, plutôt que d'aller contre et de mettre en place des outils concurrentiels, on peut aller dans le sens et mettre des conditions par exemple d'économie solidaire. Et vous savez à quoi je pense précisément, c'est au pôle de compétitivité et au prix d'aise qui ont été mis en place dans la région et qui sont en concurrence et qui bloquent toute notre économie régionale au lieu de faire prospérer notre région.
Voilà. Pierre Daréville qui a un peu pris la parole sur la fin de soirée et puis on termine.
Oui, non, quelques mots, parce que comme j'ai été interpellé à au moins deux reprises, je voudrais intervenir. Bon, j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure sur la nécessité de clarifier les choses entre la gauche et la droite, parce que je crois qu'on a beaucoup souffert ces dernières années de ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire pour autant que les uns les autres ne réfléchissent pas. La seule question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Moi, ce que je veux, c'est dépasser ce système dont on a vu les limites, à la fois pour la planète et à la fois pour la vie quotidienne, pour le social, pour l'emploi, etc. On a vu les limites de ce système ces dernières années. Voilà. Donc moi, je me bats fermement contre ça. Je crois que c'est ça, la gauche. Alors si Christophe Madrol déclare qu'il est de gauche, mais je n'ai pas entendu qu'il disait ça ce soir, voilà, et bien à ce moment-là, ça ouvrira peut-être des possibles. Mais il n'a pas dit ça. Et il vient de faire le signe qu'il ne le dirait pas. Donc voilà. Donc moi, je pense qu'on a besoin de réinstaurer de la clarté. Et moi, je me bats et je veux me battre pour une gauche très offensive. Je ne veux pas capituler sur ce combat-là. Si je dis, voilà, le Parti Socialiste, ça y est, c'est fini, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ben ça veut dire que je rentre chez moi à ma maison et je reste tout seul. Moi, mon propos, c'est de mener une bataille politique. Et je pense qu'une des questions qui est posée à cette élection, c'est de savoir quelle sera la place du Front de Gauche dans la majorité. Si le Front de Gauche a une grande place, on aura une gauche très offensive. Et c'est ce que nous voulons, c'est le projet que nous portons. Et c'est la même chose sur les retraites. Moi, je ne me résous pas à ce qu'a dit Martine Aubry. Je veux que toute la gauche se prononce, et pas comme elle l'a fait. Je veux qu'on se prononce vraiment pour un projet qui garantisse le droit à la retraite.
Un dernier mot pour Sébastien Barle, qui, effectivement, est silencieux depuis un moment, et puis terminé, tout le monde...
Sur ce débat sur le clivage de la pérennité du clivage gauche-droite, je pense que Europe Écologie porte un projet donc de transcendance de ce clivage. C'est-à-dire, nous, on peut se retrouver avec les partenaires de gauche sur la question de l'antilibéralisme, sur la question des solidarités à mettre en place, de l'équité, des politiques d'équité et de justice sociale à mettre en place. Par contre, il reste un domaine sur lequel on n'est pas d'accord et c'est là qu'il faut réconcilier peut-être la gauche, c'est la question du productivisme et donc du dépassement du productivisme, de changer donc complètement de logiciel en matière de mode de production, en matière de mode de consommation, en matière de travail. Donc nous, on veut sortir de ce culte de la croissance infinie, de ce culte du travail comme outil d'émancipation. Voilà, donc il y a quand même des clivages qui traversent la gauche, mais ce clivage, je pense, gauche-droite, reste pertinent.
Voilà. On remercie ceux qui sont venus jusqu'ici. On remercie le public. On remercie Radio Grenouille. La campagne donc continue. On vote le 14 et le 21. Et merci à vous. À bientôt.